Oh, si tu veux, oui. La tisane, là, elle fait vachement effet, hein. Ah oui, hein. Considérable, hein. Ah, bonjour Annette. Bonjour Annette. C'est toi, soit Annette, c'est toi, soit de la première, soit Muriel à Toulouse. Toujours. Merci. Merci, merci. Ah, Annette, quelle joie de vieillir, de rajeunir tous les jours. Un jour de plus. Tous les jours, n'est-ce pas? Oui, oui. Parfois, c'est dur, hein, à porter, hein. J'avais une bonne petite grippe au matin. Ça va, grâce aux tisanes de Madame Bayeux. J'ai pu aller chez Christian Fink et Marie-France après-midi. Voilà. Là, maintenant, je viens de me reposer un quart d'heure. Heureusement que ma femme est venue me chercher, sinon je dormais. Que la gloire de Dieu soit sur nous, pour nous aider à marcher dans ses voies. Recevons son pardon et sa bénédiction. Allons en paix, dans la joie, dans l'amour. Et oui. Seigneur, nous te prions pour tout ce carnage qui a lieu en Ukraine. Nous te prions pour ce peuple qui se fait laminer progressivement par cette armée russe. Seigneur, je suis certain que tous les Russes ne sont pas d'accord, mais voilà. Quand l'engrenage est enclenché, quand la vitesse est mise, Seigneur, peu d'hommes font marche arrière et se désistent. Ils suivent leur chef. Oui, Seigneur, l'iniquité est grandissante de plus en plus dans ce monde. Comment n'en serait-il pas autrement, Seigneur, puisqu'en 2019, on a vendu 3000 milliards d'armements. Donc, Seigneur, il faut bien les utiliser quelque part. Eh oui, aux dépens des populations, aux dépens des innocents. Seigneur, nous te prions que Satan soit bientôt jeté dans les temps de feu et de soufre, et que tous les méchants qui le servent y soient aussi. Nous te prions que ton jugement vienne sur cette terre pour libérer les malheureux. Gloire à ton nom, Seigneur Dieu. Merci pour Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour nos péchés et pour sauver les pécheurs que nous sommes et d'autres qui ne sont pas encore conscients de leurs péchés et qui ont bientôt besoin de te demander pardon, mon Dieu, et de recevoir le sacrifice de Christ comme l'immense cadeau, la grâce de leur salut. Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu pour ton amour pour les hommes, malgré leur abominable comportement. Au nom de Jésus, amen. Donc, nous allons, dimanche passé, j'avais prêché sur, à l'église, sur un texte, c'était dans Luc 13, au verset 6 à 8, et j'ai repris ce thème lundi passé, n'est-ce pas, puisque bon, pas mal de personnes n'étaient pas là au culte et que plusieurs étaient partis autre part. Je lis ce texte, Luc 13, verset 6 à 8. Jésus dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Le figuier représente Jérusalem, la vigne représente Israël. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Pas de conversion, pas de repentance, pas d'acceptation réelle de Jésus, du Messie. Alors il dit au vigneron, Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc l'intercesseur ici, le vigneron, intercède auprès du propriétaire pour laisser une chance à ce figuier. Et effectivement, le vigneron, l'intercesseur, c'est Jésus-Christ, puisque après 3 ans de ministère assez infructueux et un rejet total à la croix, il est considéré comme du fumier, comme rien du tout. Et c'est l'année d'après, les mois qui suivent, qu'il y a une explosion de grâce sur ce peuple d'Israël et sur les incroyants venus d'autre part. Vous voyez bien les milliers de conversions qu'il y a eu après la Pentecôte. Déjà, c'était annoncé par beaucoup de prophètes. Notamment, Dieu l'avait annoncé à Abraham que la postérité d'Abraham dans la foi serait aussi nombreuse que les grains de sable de la mer et les étoiles du ciel. Eh bien, cela est arrivé. Et donc, la 4e année du ministère public de Jésus, le ressuscité, il y a cette œuvre merveilleuse des Actes des Apôtres. Et donc, une église à Jérusalem qui, tout d'un coup, se consacre à accueillir tous les convertis, vend tous ses biens, etc., pour pouvoir nourrir, accueillir, non pas des Ukrainiens, mais accueillir des Juifs venus pour la Pâque et pour la Pentecôte, pour qu'ils restent encore 1, 2, 3 mois pour entendre les apôtres, pour être formés, pour être des disciples réellement et pour pouvoir fonder eux-mêmes des assemblées locales, des églises, participer à la construction du corps de Christ. Voilà, j'avais dit grosso modo que c'était l'année qui a suivi, les 3 années infructueuses, l'année que le vigneron demande à son Père, l'année que Dieu, que Christ a demandé à son Père, qui a porté du fruit. Lisez donc les Actes des Apôtres et puis regardez à travers le monde le nombre de croyants qu'il y a en Jésus-Christ. Aujourd'hui, si vous voulez, le thème que je prends, c'est non pas tout à fait le même, mais c'est dans la continuité, puisqu'il y a eu tellement de conversions, tellement de gens qui ont servi Jésus-Christ après, qui sont partis, qui ont annoncé l'Évangile, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il a fallu forcément que ces personnes entrent dans l'œuvre de Christ, des hommes et des femmes, pas que les hommes. Beaucoup d'hommes et de femmes sont rentrés dans l'œuvre de Christ. Ce sont les ouvriers de Christ. Et donc, rappelez-vous, dans Luc chapitre 10, donc c'est pour ça que je fais la liaison, rappelez-vous ce que Jésus a dit au chapitre 10 de Luc. Le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il est clair que, à travers les premières réunions de chrétiens, dans les Actes des Apôtres, vous voyez que quand Pierre, Jacques et Jean parlent et témoignent, énormément de cœurs sont touchés et se mettent au service de la parole. Et l'Église de Christ grandit d'une façon considérable, très rapidement. Très rapidement. Lisez les Actes des Apôtres, du chapitre 1 à 5, vous allez voir à quel point, mais vous pouvez aller jusqu'au chapitre 10, hein, c'est 11, c'est formidable. La moisson est grande, et il y a de plus en plus d'ouvriers. Effectivement, il y a eu des ouvriers. Il y a eu des ouvrières, il ne faut jamais oublier. On pense souvent aux hommes, aux pasteurs, etc. Mais c'est, nous ne faussons pas la réalité. Il y a énormément de femmes qui se sont engagées pour le Seigneur. Pensons que les premières à aller voir au tombeau, c'est Marie de Magdala, Jeanne Salomé, Marie, mère de Jacques, Marie, mère de Jésus. Ce sont des femmes les premières qui ont été ouvrières, n'est-ce pas? Les autres, ils étaient des poltrons et des incrédules. Donc il leur a fallu un certain temps pour accepter Jésus-Christ ressuscité. Lisez Luc 24, vous allez voir que même voyant Jésus devant eux, ils sont encore incrédules. Donc il faudra la Pentecôte, le don du Saint-Esprit, pour que ces ouvriers soient équipés d'une conviction intérieure profonde, d'une force de foi immense et d'une grande humilité. Et on voit bien qu'ils ont une grande humilité, ils se sont mis au service de Christ, parce que dans tous les textes de la résurrection, dans tous les évangiles, ils reconnaissent qu'ils ont mal reçu les femmes, racontards de bonnes femmes, etc. Ils ont mal reçu la nouvelle de la résurrection de Jésus, le message des anges. Et ils ont confessé leur faiblesse, leur incrédulité. Donc, quand Jésus, dans Luc chapitre 10, dit ceci, « La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, prie donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Le maître de la moisson enverra beaucoup de personnes. Sur 2 mois de temps, il y a entre 20 et 25 000 juifs et juives convertis à Jésus-Christ et qui vont servir à travers tout le bassin méditerranéen. Dans la moisson de Dieu, c'est pas la moisson des hommes, c'est pas la moisson des apôtres, c'est la moisson de Dieu. Pensez bien quand vous lisez Matthieu chapitre 13, que le semeur est sorti, il a semé la bonne parole, le blé a poussé et c'est la moisson, évidemment. C'est le résultat, c'est que les anges viendront faucher et ramasser la moisson. Donc, la moisson est grande, Jésus ne s'est pas trompé, Jésus a promis quelque chose qui est arrivé. Il y avait peu d'ouvriers et pourtant après il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, ils ont été courageux, ils ont donné leur vie pour le Seigneur, et ils ont souffert. C'est pour ça qu'au verset 3, Luc chapitre 10, verset 3, « Partez », c'est un ordre, il ne faudra pas rester à Jérusalem. D'ailleurs, ils vont être secoués. Après la lapidation, l'arrestation d'Étienne, la lapidation, ils vont tous se sauver, plus ou moins. Les apôtres en dernier, mais enfin tout le monde va partir. Priez, mais après partez. C'est un deuxième ordre. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alors, comme des agneaux au milieu des loups. Ah, ah. Qu'est-ce que c'est de ces loups-là? C'est quoi ces loups? Eh bien, c'est par exemple le frère ou la sœur d'un chrétien, d'un juif converti. Ce loup, c'est peut-être le papa, la maman, ou le fils, la fille, qui vont persécuter leurs proches, qui vont dire, vous êtes des traîtres, des apostats, et vous abandonnez la religion de vos pères, la religion d'Abraham, de Moïse. Donc les loups, ce sont des gens très proches. Déjà, vous en avez eu la preuve avec Judas. Il s'est comporté comme un loup, un traître. Donc, je vais aller avec vous. Nous retournerons au texte de Luc chapitre 10. Je vais aller avec vous dans Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Considérez que malgré la grippe que j'avais au matin, après m'être reposé jusqu'à 10h du matin, j'ai pris ma Bible et j'ai étudié ce sujet. Il est très important pour vous, pour moi, pour tous ceux qui veulent produire du fruit dans leur vie. Donc, Romains chapitre 11, verset 28, je vais commencer au verset 2, plutôt. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, moi seul je suis resté, ils cherchent à m'ôter la vie. Donc vous voyez, les loups, ce sont des gens de la population d'Israël, du peuple. À propos de Élie, ce sera la même chose pour Élisée et tous les prophètes. Mais regardez bien ce qu'il a mis. Quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes, sans doute les femmes aussi, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, donc devant le dieu de la Phénicie, du Liban actuel, le dieu Baal pour lequel on faisait des sacrifices humains, etc. Ils n'ont pas fléchi. Donc, Élie n'était pas seul. Donc, vous voyez, il y avait des ouvriers, il y avait 7 000 ouvriers et ouvrières, des gens qui s'étaient engagés pour le Seigneur, malgré les pressions, les injustices, la férocité d'Acab et Jézabel. Donc, c'est la même chose durant, si vous voulez, les premiers jours, les premiers mois de la foi chrétienne sur la terre de Palestine. Il va y avoir des gens courageux pour résister à ces pressions horribles de l'Empire romain, d'Hérode et des chefs religieux, des pharisiens et des sadducéens. De même, aussi, pour le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Donc, il y a des personnes qui constituent un reste actif, bonjour Lucas, un reste très engagé, une minorité engagée, selon l'élection de la grâce. Ils sont choisis, ils ont répondu. Ils ne se sont pas débinés. Donc, priez. Hein, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Eh bien, il y a quand même des ouvriers. Oui. À travers le monde entier, dans tous les peuples, dans les pays musulmans, partout, il y a des gens qui propagent l'évangile et qui croient en Jésus le Messie et qui croient dans le salut par la croix. Alors, Romains 11, verset 6. Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Donc, on ne gagne pas son paradis en faisant des bonnes choses. Ou en pratiquant une religion. Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. La mort de Jésus sur la croix et le pardon qu'il a acquis pour nous n'a plus de valeur si on peut se sauver par nos bonnes œuvres, par notre religion, etc., par tous nos trucs qu'on ferait bien. Les petites médailles qu'on s'accroche là en disant « Regarde Seigneur, je mérite bien d'être sauvé ». Non, tout ça ne compte pas pour Dieu. C'est seulement la grâce, c'est-à-dire le pardon donné par Dieu à la croix. Lorsque Jésus donne sa vie pour nous, nous recevons la grâce du pardon, si nous l'acceptons. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de tout cela? Eh bien, je vais aller plus loin, verset 23. Verset 23, Romains 11, verset 23 à 24. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, donc cette réalité divine qu'on ne comprend pas toujours, mais au fur et à mesure que la foi grandit, Dieu nous éclaire. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage, supérieur à Israël. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, au point de rejeter Jésus, de le crucifier, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, on voit ici que le monde entier des non-juifs doit être sauvé. Et donc, il y a, quelque part, du fait de la persécution des premiers chrétiens, la persécution vis-à-vis des apôtres et de tous ceux et des femmes qui sont devenus chrétiens, il y a eu une dispersion de l'évangile à travers le monde, et il y a eu un salut, le salut par la foi en Jésus, dans la croix et la résurrection de Jésus, a été accordé à toutes les nations. Et bien sûr, Dieu dit ceci dans Romains 11, verset 27, « Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Verset 28, « En ce qui concerne l'évangile, donc la mort et la résurrection de Jésus, ils sont ennemis à cause de vous, à cause des premiers chrétiens, mais en ce qui concerne l'élection, c'est-à-dire le choix que Dieu a fait sur eux, à partir d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils sont aimés à cause de leur père. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc, la moisson est grande et les ouvriers seront très nombreux. Au départ, ils sont peu nombreux. Mais le miracle de Dieu, c'est qu'il va multiplier les ouvriers partout dans le monde. Alors, j'en venais toujours à Luc 10, verset 3, « Partez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Les loups, c'était donc les frères, les sœurs, les oncles, les tontons, les tatas, les chefs religieux, enfin, même des amis, qui tout d'un coup, en voyant un des leurs devenir chrétien, disciple de Jésus, le haïssaient. Parmi vous qui m'écoutez, il y en a qui connaissent ça dans leur pays, parce qu'ils sont chrétiens, ils sont haïs. Et chers amis, oui, je ne peux pas citer les noms, mais je le vois sur mon petit smartphone. Il y en a qui ont connu ça et qui le connaissent encore. Alors, ils sont comme des agneaux au milieu des loups, comme Élie était persécuté par Acab et Jézabel, mais il y avait quand même 7 000 autres. Donc, on ne sait pas toujours où ça se trouve, mais il y a des gens fidèles à Jésus-Christ, des gens qui aiment le Seigneur et qui, dans l'ombre, dans la clandestinité, servent le Seigneur et sont fidèles à la grâce que Jésus a donnée sur la croix lors de sa passion et de sa résurrection à ceux qui croient en lui. Alors, je retourne dans Luc, chapitre 10. Luc chapitre 10, n'oubliez pas, chers amis, que si je vous envoie comme des agneaux, ça veut dire que on ne peut pas utiliser les armes, on ne peut pas utiliser la domination, on ne peut pas utiliser la force pour amener quelqu'un de chrétien. On doit être doux et humble de cœur comme notre Seigneur Jésus. C'est un outil indispensable de la vraie vie chrétienne. La douceur, la tempérance, l'amabilité, le pardon, la bienveillance, la patience, la prière, la foi. Et il n'y a pas de chrétien qui puisse dire « j'ai obligé quelqu'un à être chrétien ». C'est malsain, c'est malhonnête. Nous sommes comme des agneaux, nous devons être doux et humbles de cœur. Et si par notre attitude, par nos paroles, quelqu'un vient au Seigneur Jésus, ce n'est pas parce que nous avons utilisé des stratagèmes humains. Mais notre faiblesse, rappelez-vous ce que, en 2e aux Corinthiens, que Jésus dit à Paul, c'est dans ta faiblesse que je me glorifierai. Ma grâce seule te suffit. La présence de Jésus suffit dans la vie d'un chrétien, même s'il n'a aucun pouvoir, s'il n'a aucune force, il n'a pas d'argent, il n'est pas aimé, la présence de Jésus dans sa vie, si réellement c'est quelqu'un qui a accepté vraiment Jésus, cette personne de Jésus à travers le chrétien fait un effet redoutable contre l'œuvre de Satan. Elle a un effet efficace contre le royaume des ténèbres, des menteurs, des gens indignes, méchants. Continuons à lire Luc 10. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Ne saluez personne en chemin. Donc, il n'y a pas besoin d'être riche. Il n'y a pas besoin d'être super équipé pour faire connaître Jésus et le servir. Combien de fois il y a des gens qui m'ont dit « Ah, si j'avais de l'argent, oui, je t'aiderais. Je ferais quelque chose pour le Seigneur. » Mais c'est complètement faux. Nous n'avons pas d'argent d'avance, nous recevons 10 Ukrainiens sur la maison. Et encore, nous envoyons des marchandises en Allemagne. Et encore, on aide 105 enfants au Pakistan. Mais nous n'avons rien d'avance. Comment se peut-il? C'est seulement la main de Dieu, chers amis. Donc, nous n'avons pas besoin d'être riches pour aimer les autres, pour annoncer l'évangile, nous n'avons pas besoin d'avoir des trésors pour pouvoir servir Dieu. Il faut simplement avoir la foi. Et Dieu, dans sa divine providence, contribue lui-même à son œuvre dans le monde. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. S'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Donc, vous devez savoir que les 70 disciples, 70 disciples qui sont envoyés et qui traversaient toute la région de Galilée, qui descendaient vers la Samarie et qui préparaient le passage de Jésus, devaient trouver dans chaque village au moins une maison où Jésus puisse s'arrêter. Et devaient au moins, pourquoi? Pour y manger, pour s'y reposer et puis pour annoncer l'évangile au quartier, etc. Donc, il fallait repérer une maison bienveillante, une maison ouverte au Messie. Et il fallait donc trouver cette maison. Mais beaucoup de maisons refusaient. C'est clair, il y avait beaucoup de loups, beaucoup de gens hostiles. Rappelez-vous que quand Jésus est né, il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie pour lui, ni pour Joseph et Marie, Marie qui était sur le point d'accoucher. Donc, l'histoire des vrais chrétiens est toujours la même. l'accueil n'est pas toujours favorable. L'opposition est grande. C'est la condition du vrai évangile. Et vous voyez, une seule maison suffit dans chaque localité. Et c'est quoi cette paix? Mais c'est la paix de Jésus, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de la vérité. C'est ça qui procure la paix. Donc, si les apôtres, en entrant dans un village, trouvent une maison comme cela, oui, cette paix est l'indication que Dieu est déjà là à l'œuvre et que Jésus va arriver, Jésus va venir là pour développer cette paix, pour implanter sa parole, son message, et pour qu'il vienne dans la vie de ces personnes. S'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. C'est au verset 6, un enfant de paix. Ah oui, vous savez très bien, chers amis, que Jésus a dit, je vous envoie comme des agneaux. Oui, comme des agneaux. Un chrétien, un vrai chrétien, n'est pas un loup. Mais souvent, dans l'évangile de Jean, vous voyez que Jésus dit « mes petits-enfants, mes bien-aimés, etc. » Et même dans Paul, à Timothée, son disciple, il dit ça. « Mon enfant », dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 1. Donc, le titre d'enfant est quelque chose de caractéristique de celui qui a un cœur en paix. Celui qui est enfant devant Dieu peut recevoir Dieu. Celui qui est orgueilleux ne reçoit jamais Dieu. Alors, par rapport à un enfant de Dieu, il y a des lions, il y a des loups cruels, il y a des gens qui ne sont pas favorables. Et c'est sûr que Jésus a été extrêmement réaliste et a appris à ses disciples à être très réaliste. Alors, je continue le verset 7. « Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. » Bon, ça veut dire quoi? Ils vont faire une grosse java, ils vont vider tous les frigos, ils vont manger tout ce qu'il y a, ça va être de l'abondance. Mais non, je dois vous dire que moi j'étais au Bénin, j'étais à droite et gauche, même en Israël, il n'y avait pas grand-chose. On partageait le peu qu'il y avait. Et donc c'est dans la simplicité, c'est dans le contentement. Et Paul le dit à Timothée, la piété et le contentement sont une source d'un grand gain, un grand gain spirituel, une croissance spirituelle. Le contentement et la piété, la foi. Se contenter de ce qu'on a. Et s'il n'y a rien, on s'en contente aussi. On ne vit pas comme un frustré, un mécontent, un agressif, un révolté contre Dieu. J'ai combien de fois demandé à notre ami Saïd au Pakistan, est-ce qu'ils sont révoltés contre Dieu? Est-ce qu'ils quittent pour aller vers l'islam, etc.? Non, jamais. Vous voyez le contentement et la paix et la piété? Chers amis, nous avons beaucoup de leçons ici à recevoir ici en Europe. Il est dit aussi de ne pas aller de maison en maison, au verset 7. Il ne faut pas s'acharner à implanter Jésus-Christ. Il ne faut pas s'acharner à forcer, à faire du forcing. Ça ne peut pas marcher. Cette méthode que les témoins de Jéhovah ont instauré avec l'avocat Rutherford en Angleterre en 1924, cette méthode d'aller de porte en porte, où on note dans un cahier tout ce que les gens ont dit, même 20 ans après, on sait ce que les gens ont dit à cet endroit-là, ou même s'ils déménagent, quand on les retrouve, ce qu'ils ont dit, pas dit, les refus ou les acquiescements qu'ils ont donnés. Alors, si vous avez déjà observé, quand ils sont dans un village, à l'entrée du village, ils sont tous ensemble, en groupe, ils regardent dans un cahier, il y a un chef ou deux, puis ils regardent dans un cahier, à tel numéro, à telle maison, on a dit ceci, dit cela. Et si c'est en ville, c'est à chaque coin de rue, à chaque coin de quartier. Jésus n'a jamais demandé de faire une telle méthode d'investigation et de marketing pour sa parole. Parce que Dieu est plus grand que les œuvres humaines et les moyens humains reflètent toujours un manque de foi dans la puissance de Dieu. Les moyens humains reflètent toujours une incrédulité profonde dans l'immense puissance, l'immense amour de Dieu pour les pécheurs. N'allez donc pas de maison en maison, dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Sans en demander plus, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'approchait de vous. Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ, évidemment. Mais dans quelque ville que vous entriez, où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues, et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Pourquoi ? Parce que quand les Juifs allaient dans une autre région que celle d'Israël, par exemple à Gadara ou en Syrie, etc., quand ils rentraient sur la terre d'Israël, ils secouaient, c'était une technique ou une méthode, si vous voulez, pour dire, nous entrons sur un terrain saint, la terre de Dieu, et nous laissons la poussière de ces peuples-là qui ne sont pas chrétiens, nous la laissons chez eux. C'était donc une distanciation par rapport aux gens qu'ils avaient fréquentés sur d'autres territoires, et c'était une méthode d'identification aussi, pour eux, pour savoir s'ils savaient, s'ils étaient juifs ou pas, s'ils savaient faire la différence entre un juif et un non-juif. Mais bien sûr, souvent ça a été un geste extérieur, et il n'y avait rien dans le cœur. C'était une méthode qui est devenue orgueilleuse et raciste, parfois. Mais toujours est-il que pour les disciples de Jésus, secouer les sandales, c'est faire la différence. J'ai été dans une maison où on haït Jésus, on ne le reçoit pas, on ne l'aime pas, je ne participe pas au péché de cette maison. Ou dans tel et tel village, telle et telle ville, personne ne nous a accueillis, je ne participe pas aux esprits mauvais, aux esprits impurs, aux esprits de démons qui sont dans cette région. Et donc, c'est un geste, si vous voulez, pour montrer, oui, je ne suis pas en communion avec vous, et je reste en communion avec Jésus-Christ. Mais ce n'était pas un acte raciste, un acte de haine. Alors, nous secouons contre, verset 11, contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Sachez cependant, donc, vous avez toujours l'occasion de recevoir Jésus et il n'est pas exclu que vous puissiez recevoir Jésus dans votre vie. Donc, il n'y a pas quelque chose de, un ostracisme, un acte de colère, un acte de rejet, un acte vindicatif dans ce geste-là. Pardon. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Alors, de quelle ville s'agit-il? Ben, chers amis, j'ai visité ces régions, hein. Malheur à toi, Chorosaïn, malheur à toi, Bethsaïda, ces deux localités qui sont au nord de la mer de Galilée, de Tibériade. Il y a eu énormément de guérisons, énormément de démons chassés, des multiplications des pains. Il y a eu des lépreux guéris et il y a eu des morts ressuscités. Et tous ces gens ne se sont pas convertis. Malheur à toi, Chorosaïn, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, donc au Liban, où on adorait des faux dieux, des statues et des démons, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est toujours, si vous voulez, en mémoire de ce que, quand Jonas avait parlé à Ninive, en Syrie, les Ninivites, les Assyriens, s'étaient convertis, avaient demandé pardon pour leurs péchés. Et ils avaient... Dieu n'avait pas détruit cette ville. Pendant 110 ans, la ville de Ninive a pu continuer à exister. Donc, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, c'est l'endroit où Jésus a le plus prêché, les béatitudes, etc. Matthieu, chapitre 5 à 8, et même il revenait régulièrement là. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, donc qui a connu Dieu à travers Jésus, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, c'est-à-dire tu vas subir le jugement de Dieu parce que tu n'as pas accepté Jésus. Donc, vous voyez à quel point ce que je vous lisais l'autre jour, dimanche au culte et lundi dans le message, à part la parole du figuier, Luc 13, verset 6 à 8, quand le figuier n'a pas produit de fruits, ni la vigne, il s'agissait de la vigne Israël, le figuier Jérusalem, et le vigneron intercède pour qu'une quatrième année, on donne une chance à cette vigne, à Israël et à Jérusalem, et il dit, le vigneron, je mettrai du fumier, je vais faire une tranchée alentour du figuier, je vais mettre du fumier. Effectivement, le fumier, ça représente sa mort, et bien sûr celui de la résurrection. Et donc, pour Capernaum, Tyr et Sidon, qui sont en Israël, ne jetons pas, nous, un sort sur les Juifs. Ne nous croyons pas meilleurs. Nous sommes capables de beaucoup de tristes choses. Il faut savoir s'humilier et prier pour ceux qui n'acceptent pas encore le Seigneur Jésus. Il faut s'humilier et savoir que ce sont des pécheurs comme nous. Ce texte est un appel à prier pour ces gens-là. Et les apôtres sont revenus souvent. C'est l'endroit où les apôtres sont nés, où il y avait leur famille. Quand je vous parlais des loups cruels, etc., c'était des gens de leur famille, de leur milieu. Donc, Luc 10, verset 16, « Celui qui vous écoute, m'écoute, celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » C'est clair, Dieu le Père est rejeté si on refuse la parole de l'Évangile. Bon, on va continuer dans le commentaire de ce texte. Mais j'ai une petite réflexion à faire. La mentalité du juif à cette époque-là, et souvent encore dans beaucoup de régions, hein, pas tous parce qu'il y en a beaucoup convertis à Jésus, c'est que Dieu avait donné des promesses à Abraham, Isaac et Jacob, mais qu'il n'avait pas pu les tenir et qu'il ne les tiendrait pas. C'est un petit peu comme les chrétiens. Jésus-Christ est ressuscité, Dieu a ressuscité Jésus-Christ, mais nous... Il va nous ressusciter, bof, je n'y crois pas. Après la mort, c'est le trou. Est-ce qu'il va revenir? Je n'y crois pas. Est-ce qu'il va établir son royaume de justice sur terre? Je n'y crois pas. On ne croit pas aux promesses de Dieu. C'est clair, parmi nous, dans le peuple chrétien, pas plus que dans le peuple juif, les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob sont mises en question. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous, on voit Dieu comme nous sommes. On voit Dieu comme un instable, un menteur. Alors que Dieu est immuable et vrai, et le prince de la vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. Mais nous prenons Dieu et son fils Jésus comme instable et comme menteur. Et nous considérons que Dieu est sans puissance. C'est une belle histoire, cette mort et de résurrection de Jésus à Pâques. Mais ça ne change pas grand-chose pour ma vie. D'ailleurs, j'ai pas envie que ça change grand-chose à ma vie. Que je mette une belle image sur les murs, une belle croix, ou que je regarde un beau livre de temps en temps sur Jésus, oui, mais ça. Mais je ne crois pas à sa véritable puissance, à sa présence, à son autorité. C'est comme si Dieu était sans intention véritable de changer ce monde. C'est comme si Dieu était sans intention véritable de sauver les hommes, de sauver l'humanité perdue. Vous voyez, nous sommes dans une quadruple provocation. Et c'est pas que les juifs qui l'ont, c'est humain. Un, si Dieu a donné des promesses, il ne les tient pas. Deux, il est instable et menteur, je doute de lui. Trois, il est sans puissance. Si tout ce mal qui est sur la terre là, s'il était puissant, ça n'existerait pas. N'est-ce pas? Quatre, Dieu était sans intention véritable de nous sauver. Il nous laisse pécher, il nous laisse faire toutes nos bêtises, il laisse faire nos enfants, il laisse faire tout le monde, il laisse faire les guerres. Il est sans intention véritable de sauver le peuple, l'humanité. Ce sont les provocations que nous avons dans le cœur contre Dieu. Et c'était celle qui existait dans Capernaum, Chorosaïn. Et dans beaucoup de villes où Jésus a dénoncé l'incrédulité. Chorosaïn, Bethsaïda, Capernaum, alors qu'il avait fait des tas de miracles. Quand nous lisons Hébreux, chapitre 4, verset 7, « Aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu, ne te laisse pas séduire par ton péché. » Hébreux, chapitre 4, verset 7, ça veut dire qu'aujourd'hui, Jésus me demande de l'écouter. Je suis ressuscité, je suis tout puissant, je suis le Fils de Dieu, je reviendrai, j'établirai mon règne. Le crois-tu? Autrement dit, je suis le Père des cieux, j'ai tout crié. Tout le monde me rendra des comptes, passera en jugement. Je demanderai à tous des comptes pour ce qu'il a fait ou ne l'a pas fait. J'ai envoyé Jésus, je leur ai donné Jésus, je vous l'ai donné comme chemin, comme vérité et vie. Qu'est-ce que vous en avez fait? Donc le mot aujourd'hui, dans Hébreux chapitre 4, verset 7, veut dire que Dieu aujourd'hui m'adresse la parole et qu'il ne veut pas que je reste dans ma quadruple provocation à son égard. Mes amis, où sont les loups? J'en reviens à ce qu'on a lu tout à l'heure. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Où sont les loups? Beaucoup de gens portent le nom de chrétiens ou de juifs et sont des loups. Car ils s'opposent réellement. Ils ne veulent pas croire. Qu'on n'ose pas croire, c'est encore autre chose. Mais il y en a beaucoup, ils ne veulent pas croire. Et beaucoup aussi n'osent pas croire parce que ça les arrange. Alors, nous sommes des agneaux? Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Oui, un petit agneau, là, chez nous, pour l'instant, des personnes nous emmenaient un petit agneau que la maman, la brebis, ne voulait pas. Il y avait 2-3 agneaux, et il y avait un petit mâle là, que la maman ne voulait pas allaiter, rien du tout. On nous l'a donné. Bénédicte se relève toutes les 3 heures, 4 heures, pour donner le biberon et tout. Et elle se promène dans la nature, derrière chez nous, avec cet agneau, qui connaît sa voix, qui vient tout près d'elle, qui bondit, qui est tout heureux d'être avec elle. Elle le prend dans les bras comme un enfant. Et vous verriez la tête de cet agneau. Comme il est bon de voir un agneau dans les bras de Bénédicte. Alors, comme il est bon de voir un vrai chrétien dans les bras de Jésus, mes amis. Comme il est bon de voir un vrai homme, une vraie femme qui a compris que Jésus l'aime et a donné sa vie sur la croix pour lui et est ressuscité pour lui et vivant aujourd'hui, il lui parle à son cœur. Comme il est beau, comme il est bon de voir des gens qui répondent à l'appel de Jésus. Alors nous allons continuer dans le texte, dans Luc, chapitre 10. Je m'excuse, j'ai le rhume, etc. J'ai un peu de la misère, mais je voulais donner mon message quand même. C'est pas le mien d'ailleurs en plus. Au verset 17, les 70 disciples, hein, il y avait les 12 apôtres et les disciples, hein, revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Coup de rage, quoi. Hein. Il manifestait son mécontentement à l'arrivée de tous ces gens qui travaillaient pour Jésus. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, » donc sur les démons, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. La première chose qui est à dire, c'est que la vraie mission des chrétiens n'est pas de chasser les démons. C'est de faire connaître Jésus-Christ. Et que tout le monde un jour soit comme un agneau dans les bras de son maître. L'exorcisme, la chasse aux démons n'est pas la caractéristique toujours de quelqu'un qui est converti. Il y a des gens inconvertis. Il y a des gens qui sont très subtils, qui sont utilisés par Satan pour laisser croire qu'ils chassent des démons. Et qui font des œuvres, qui peuvent laisser croire à des chrétiens qu'ils ont des pouvoirs spirituels venus de Dieu. L'exorcisme ne vient pas forcément de Dieu. Il m'est arrivé dans ma vie de prier pour que les personnes soient délivrées, mais c'est pas fréquent. La deuxième chose, mon grand souci est d'être en union avec Jésus-Christ. Mon plus grand souci, c'est de lui obéir, c'est de l'aimer plus que tout. Et ma plus grande joie, c'est que mon nom est dans son livre de vie, que je suis dans ses bras pour toujours. Et donc l'essentiel, c'est la communion à Christ. Oui, quand nous avons la communion à Christ, il peut arriver que parfois, en priant à plusieurs, le démon recule. Mais ce n'est pas forcément ostentatoire, ce n'est pas forcément la première chose que Dieu nous demande. Alors, dans ce sens-là, je voudrais vous lire un texte qui est très important de Marc, chapitre 5, je pense. Ou 3. Jésus monta, Marc chapitre 3, verset 13. Jésus monta ensuite sur la montagne, sur Capernaum. Il appela ceux qu'il voulut, donc c'est l'élection, c'est le choix de Christ. Hein. Ils vinrent auprès de lui, c'est la réponse des disciples. Il en établit 12, donc il leur donne une situation de partenaire, d'ouvrier, si vous voulez. Pour les avoir avec lui. Le mot koinonia, ça veut dire pour être en communion avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc, le premier but de l'appel de Jésus et la première grâce qui est donnée à ceux qui répondent, c'est la communion avec Jésus-Christ. Secondairement, par leur bouche, s'exprime l'amour de Christ, l'amour pour sa mort à la croix et sa résurrection pour les pécheurs. En troisième lieu, s'exerce par leur bouche la prière contre les démons. Donc, lorsque nous sommes dans Luc, dans Luc, au verset 11 à 19, la tendance naturelle des disciples, c'est d'inverser les priorités. Et je voudrais bien, chers amis, que vous ne fassiez jamais cette gaffe d'inverser les priorités. La priorité, c'est la communion avec Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est son adhésion à sa mort et à sa résurrection. Et l'annonce de cette mort et de résurrection pour le salut des pécheurs. Troisième point, c'est la lutte contre les ténèbres. Dans la mesure où le Seigneur nous le permet, et pas au-delà des moyens que Dieu nous donne. Sinon, ça peut nous coûter très cher. N'oubliez pas ceci. Première épître de Pierre, chapitre 5. Première épître de Pierre, chapitre 5. Ah, j'ai un bon grumain, excusez-moi. Premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, à lui soit la puissance, donc ce n'est pas les disciples de Jésus qui ont la puissance. Et même dans certains cas, quand il m'est arrivé d'être en collision avec le monde des ténèbres, je n'avais aucune puissance, c'est Jésus-Christ. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu 28. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. N'inversons pas les priorités. C'est Christ le Tout-Puissant. Y a-t-il possibilité pour nous de rester fidèles? Ah. Considérons Luc, chapitre 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, il y a moyen de rester derrière le Seigneur. Oui, il y a moyen de rester en paix et d'être vraiment en union. Mais dans l'humilité, comme un enfant spirituel. Pas comme un grand malin, un super intelligent théologique. Un monsieur je sais tout et madame je sais tout. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc Jésus, chez le vrai chrétien, le vrai disciple, révèle tous les jours, un peu plus, qui est le Papa, et révèle un peu tous les jours qui il est. C'est l'action gracieuse et tout à fait désintéressé de Jésus-Christ, de nous faire ce cadeau. Dans la mesure de notre humilité et de notre abaissement. Car Jésus ne donne pas la perle au pourceau. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Donc, heureux ceux qui ont cette vision de Jésus, cette vision de la relation spirituelle, cette vision du vrai service de Christ, heureux ceux qui ont cette vision de leur situation d'enfant spirituel et qui veulent rester là, qui y sont attachés et qui ne veulent rien d'autre, ni gloire, ni trompette, ni tambour. Je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et n'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et n'ont pas entendu. Donc, beaucoup de gens remplis de vanité, flattés, mis sur des trônes, mis dans des hautes fonctions, n'ont pas cette joie de connaître Jésus. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord descendre tous ces grades humains pour être au niveau de Jésus de Nazareth, le menuisier de Nazareth, qui pendant 30 ans de sa main a rapporté des bois, a rendu service à son prochain, et qui pendant 3 ans a servi la cause de son Père et est mort sur la croix. Tout quiconque veut être en proximité réelle et en communion avec Dieu doit être dans la même situation que son maître. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. C'est clairement ce que Jésus nous a enseigné. Voilà, il est toujours possible d'être heureux et d'être disciple de Jésus. Mais voyez la condition, les conditions spirituelles qui nous sont demandées. Un peu plus loin, nous savons avec, hein, au verset 27, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. » Verset 28, « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Fais cela et tu vivras. Mes chers amis, ne soyez pas des gens remplis d'idées bibliques, des gens remplis d'idées théologiques, de savoir chrétien, et qui ne connaissent pas Jésus, qui marchaient sur les pieds de Jésus tous les jours, qui ne l'écoutaient pas quand il vous parle. Regardez bien le verset 25, ce docteur de la loi s'est trompé. Jésus l'invite et lui dit, fais cela et tu vivras. Mais il voulait se justifier et il dit, qui est mon prochain? Il ne sait même pas s'approcher des autres. Alors Jésus prend la parabole du bon samaritain et celui qui se fait le prochain, c'est ce samaritain, cet étranger, qui s'approche des gens en grande difficulté morale, physique et spirituelle. Tout quiconque a de l'amour pour Christ doit savoir que ça se vérifie dans son amour, sa compassion pour son prochain, pour ses frères et sœurs dans la foi, et même pour les non-croyants. Tout quiconque a cet amour de Jésus a un cadran, comme dans la voiture, il sait dire s'il a de l'huile, si ses freins fonctionnent, si la boîte à vitesse est en ordre. Il sait dire si toutes les lampes fonctionnent dans sa voiture, parce que le tableau de bord l'indique. Nous, notre tableau de bord, c'est l'état de notre cœur envers les frères et les sœurs. Celui qui dit aimer Dieu et qui n'aime pas son frère qu'il voit, alors qu'il ne voit pas Dieu, est un menteur. Donc Jésus nous a donné tous les moyens d'être heureux, tous les moyens d'être vrais. La recette est toute simple dans l'Évangile. La vérité, l'amour, l'abaissement. Plus tard, on sera élevé. Dieu se loue. Donc, quand la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Chers amis, vous avez compris. Nous sommes tous ouvriers de la moisson. Dans la mesure où nous avons un immense amour pour Christ et une immense compassion pour les frères et les sœurs sur la terre. Nous devons entrer dans le travail. Et le texte, il y a peu d'ouvriers, on a toujours pensé, oh, c'est pour, il faudrait des pasteurs, il faudrait faire ci et ça. Mais combien de femmes s'engagent au service de Christ? Il y en a plus que des hommes. Dans le monde d'aujourd'hui, tous les missionnaires chrétiens qui travaillent le monde, c'est deux femmes pour un homme. Et il est clair qu'il faut aussi des hommes. Oui. Chers messieurs, secouez-vous. Il faut renoncer. Il faut renoncer à beaucoup de choses, chers frères, pour servir Jésus-Christ. Dieu soit loué. Vous serez bénis si vous obéissez à cela. Celui qui me donne sa vie la sauvera. Celui qui fait la conserver pour lui-même la perdra. Amen.